Chapitre 19. Un régime ? Non. Un mode de vie. Le présent livre audio n'est pas un livre de régime, car ce n'est pas un régime qu'il présente. À partir du moment où l'on accepte que ce qui nous fait grossir, ce sont les glucides, et non le fait de trop manger ou de mener une vie trop sédentaire, se mettre au régime pour perdre du poids ou, pour le dire plus techniquement, suivre un traitement alimentaire contre l'obésité perd en effet beaucoup de son sens. Les seules questions réellement intéressantes qui se posent alors sont comment limiter au mieux les glucides adipogènes, céréales raffinées, féculents et sucres, et que peut-on faire d'autre pour maximiser les bienfaits de cette restriction sur notre santé ? Depuis les années 1950, un certain nombre de livres de régime, fort sensés, ont conseillé aux lecteurs de limiter leur consommation de glucides pour contrôler leur poids, et le phénomène s'est amplifié au cours des dernières années. À l'origine, les auteurs étaient des médecins, qui souffraient généralement eux-mêmes de problèmes de poids et avaient ainsi eu des parcours similaires. Ayant échoué à perdre du poids en mangeant moins ou en faisant plus de sport, ils avaient fini par avoir l'idée de consommer moins de glucides. Ayant mis cette idée en pratique, ils avaient constaté qu'elle fonctionnait et avaient prescrit la méthode à leurs patients. Puis ils avaient écrit des livres, d'une part pour faire partager leur expérience, et d'autre part pour tirer profit de ce qu'ils considéraient être leur contribution personnelle à ce sujet. Ces ouvrages se sont vendus d'abord parce que les formules marchaient, et parce qu'il se trouve toujours des gens pour vouloir essayer un nouveau régime s'ils pensent qu'il peut être efficace. « Eat fat and grow slim », mincissez en mangeant gras, paru en 1958. « Les calories ne comptent pas », paru en 1960, en 1962 pour la traduction française. « La révolution diététique du Dr. Atkins », paru en 1972, 1975 pour la traduction française. « The Carbohydrate Addict's Diet », le régime des agroglucides, paru en 1993. Voir aussi « Hydrate de carbone », le régime minceur, « Débusquer les sucres là où vous ne les attendez pas », des mêmes auteurs, en 2000 pour la traduction française. « Le pouvoir des protéines », paru en 1996, 2005 pour la traduction française. Et « Sugar Busters », « Haro sur le sucre », paru en 1998. Ne sont que quelques exemples de best-sellers se fondant sur le même argument. Supprimer les aliments et les boissons qui contiennent des glucides raffinés, des féculents et des sucres, car ils vous font grossir. Ces livres présentent tous de l'intérêt pour les conseils qu'ils contiennent, mais fondamentalement, si les régimes qu'ils préconisent marchent, c'est parce qu'ils limitent la consommation de glucides adipogènes, quelles que soient par ailleurs leurs différences de forme, ou les variations dans les interprétations que leurs auteurs respectifs font des données scientifiques sur lesquelles ils se fondent. À la fin de cet audiolivre, vous écouterez un résumé de règles diététiques du type de celles que fournissent de nombreux livres prônant des régimes dits « faibles en glucides », « hypoglucidiques » ou « low carb ». Mes conseils sont empruntés à ceux de la Lifestyle Medicine Clinic, du Centre médical de l'Université Duke, adapté quant à eux des recommandations que dispense l'Atkins Center for Complementary Medicine. Cette clinique est dirigée par le docteur Eric Westman. Ce médecin a commencé à s'intéresser au régime Atkins en 1998, après qu'un de ses patients eut perdu une dizaine de kilos en 2 mois, affirmant qu'il était parvenu à ce résultat en se nourrissant principalement de steak et ce, en grande quantité. Westman se plongea alors dans les ouvrages que présentait le régime Atkins avant de rencontrer leur auteur, Robert Atkins, à qui il proposa de financer une petite étude pilote, portant sur 50 patients et limitée à 6 mois, destinée à déterminer si ce régime marchait réellement et s'il ne présentait pas de risque pour la santé. L'étude fut menée et ses résultats confirmèrent qu'en ne se nourrissant pratiquement que de viande et de légumes-feuilles, les sujets perdaient non seulement du poids, mais amélioraient également leur profil lipidique. Westman rendit alors visite à différents médecins, Mary Vernon, Richard Bernstein, Joseph Hickey et Ron Rosedale, qui appliquaient le régime Atkins dans leurs cliniques respectives et entreprit d'évaluer leurs résultats pour vérifier que ce qu'avançait le Dr. Atkins et que lui-même avait conclu suite à son étude pilote se trouvait confirmé dans la pratique clinique. En 2001, Westman commença à prescrire le régime Atkins à des patients en surpoids ou obèses, et il n'a plus cessé depuis lors. Parallèlement, il a poursuivi ses essais cliniques, et ceux-ci ont jusqu'à présent confirmé de façon récurrente les bienfaits de ce régime sur la santé, tant chez les diabétiques que chez les patients ne souffrant pas de diabète. Westman est par ailleurs co-auteur avec Stephen Finney de l'Université de Californie, UC Davis, et Jeff Volek de l'Université du Connecticut de la nouvelle version du régime Atkins, The New Atkins for a New You, dont la traduction française a été publiée en 2011 aux éditions Thierry Soucard sous le titre Le Nouveau Régime Atkins. Les recommandations de Westman à l'égard de ses patients sont certes plus détaillées, mais par ailleurs très proches de celles que l'on dispensait aux personnes souffrant de surpoids ou d'obésité, qui étaient hospitalisées dans les années 1940 et 1950. Mangez de la viande, du poisson, de la volaille, des œufs et des légumes-feuilles autant que vous le souhaitez. Évitez les féculents, les céréales et les sucres, ainsi que tout aliment qui en contient, y compris le pain, les sucreries, les jus de fruits et les sodas. Déterminez individuellement quelle quantité de fruits et de légumes non féculents, parmi lesquels les pois, les artichauts ou les concombres, votre organisme est en mesure de tolérer. Si ces notions vous sont familières et qu'il soit inutile de les préciser plus avant, je me contenterai de vous conseiller de réécouter le chapitre 16, Digression historique partie 2, les glucides adipogènes, et noter les recommandations anti-obésité faites en 1951 par Raymond Green, dans son manuel d'endocrinologie listant les groupes d'aliments à éviter et ceux pouvant être mangés à volonté, et de les afficher sur la porte de votre réfrigérateur pour pouvoir vous y référer en cas de besoin. Si en revanche, vous avez besoin de conseils plus détaillés sur les aliments à privilégier et à éviter, j'y reviendrai plus loin. Il serait appréciable de pouvoir affiner davantage les listes des aliments qu'il convient respectivement de favoriser, de manger avec modération ou d'éviter, mais ce n'est malheureusement pas possible sans s'aventurer sur le terrain de la devinette. Les essais cliniques à long terme qui seraient nécessaires pour cela n'ont pas encore été entrepris. Ceux qui ont été réalisés jusqu'à présent ont montré que les régimes allégés en glucides, permettant de se nourrir par ailleurs sans restriction de quantité ou de calories, fonctionnaient bel et bien et avaient les effets positifs attendus sur le syndrome métabolique et en conséquence sur le risque cardiovasculaire. Mais à l'heure actuelle, les connaissances scientifiques avérées ne vont pas plus loin. On dispose en revanche des connaissances scientifiques sur les mécanismes de l'adiposité qui ont été présentés au fil des chapitres précédents, ainsi que de l'expérience clinique de médecins qui, comme Westman, ont cru suffisamment en leur observation et en leur compréhension des données scientifiques pour supprimer les glucides adipogènes de l'alimentation de leurs patients en surpoids, obèses et diabétiques, bien que cela aille à l'encontre de ce qui se pensait et se faisait par ailleurs dans ce domaine. C'est en me fondant sur l'expérience de ces médecins, Mary Vernon, Stephen Finney, Jay Wortman, de l'Université de Colombie-Britannique, ainsi que les auteurs du « Pouvoir des protéines » Michael and Mary Dan Eads, que je propose ci-après quelques réflexions sur les questions clés qui se posent lorsque l'on souhaite supprimer les glucides adipogènes de son alimentation afin de vivre plus mince et en meilleure santé. Modération ou suppression totale. Partie 1. Moins nous consommons de glucides, plus nous restons minces. Aucun doute là-dessus. Mais rien ne garantit que la silhouette la plus mince que nous puissions avoir soit également celle que nous souhaitons avoir. Il faut en prendre conscience. Comme nous l'avons vu, en matière de corpulence, il existe des variations d'ordre génétique indépendantes de notre alimentation. L'accumulation de graisse corporelle est affectée par une multitude d'hormones et d'enzymes, et parmi les premières, l'insuline, que nous pouvons contrôler volontairement à travers nos choix alimentaires. Si le fait de réduire notre consommation de glucides et d'éliminer les sucres de notre alimentation ramène notre taux d'insuline à un niveau suffisamment bas pour être sain, cela peut néanmoins ne pas suffire à réparer l'impact d'autres hormones, comme par exemple la perte de l'effet limitant des œstrogènes chez les femmes ménopausées ou de la testostérone chez les hommes prenant de l'âge, ni à inverser les dommages causés par une vie entière passée à consommer trop de glucides et d'aliments sucrés. Ceci signifie qu'il n'existe pas de prescription universellement valable concernant la quantité de glucides que l'on peut manger tout en continuant à mincir ou en restant mince. Pour certains, garder ou retrouver la ligne peut ne rien exiger de plus qu'éviter les sucres et manger avec modération les autres aliments glucidiques, y compris les glucides adipogènes. Par exemple, ne manger des pâtes qu'une fois par semaine au lieu de tous les deux jours. Chez d'autres, il ne suffit pas de modérer la consommation de glucides. Il faut les éviter d'une façon beaucoup plus rigoureuse. Pour d'autres encore, le seul moyen de perdre du poids est de cibler une alimentation se rapprochant au maximum du zéro glucide. Et cette quasi-suppression elle-même peut ne pas suffire à éliminer la totalité, ni même la majeure partie de la graisse accumulée. Toutefois, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, si vous ne parvenez pas à perdre votre graisse corporelle malgré les efforts que vous faites pour mincir, la seule chose à faire, mis à part la chirurgie ou l'espoir que l'industrie pharmaceutique finisse par trouver une pilule anti-obésité efficace et sans effet secondaire, est manger encore moins de glucides. Identifier et éviter les autres aliments susceptibles de stimuler de façon significative la sécrétion d'insuline. Les sodas light, les laitages, la crème notamment, le café, les fruits à coque, etc. Et vous armer de patience. Selon certaines sources non scientifiques, un jeûne occasionnel de 18 ou 24 heures pourrait permettre de surmonter ces paliers de perte de poids, mais le phénomène n'a pas encore été suffisamment étudié pour que l'on puisse l'affirmer. Des médecins ayant prescrit pendant une décennie ou plus des régimes allégés en glucides à leurs patients, puis publié les résultats de leurs expériences cliniques, le médecin britannique Robert Camp, par exemple, qui commença ses publications en 1956, ou Wolfgang Lutz, médecin autrichien qui fit de même à partir de 1957, ont rapporté que parmi leurs patients obèses, un petit nombre ne parvenait pratiquement pas à perdre de poids, bien qu'évitant scrupuleusement les glucides adipogènes. C'est à tout le moins ce qu'ils affirmaient faire. Un tel échec s'avérait plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les personnes âgées. Par ailleurs, plus les patients étaient obèses et plus ils l'étaient depuis longtemps, plus ils risquaient de le rester. Ce qui, selon Lutz, ne signifiait pas que les glucides n'étaient pas à l'origine responsables du trouble de l'obésité, mais que, plus simplement, et plus tristement, un point de non-retour avait été atteint. Ce que nous ignorons, c'est s'il aurait été possible à ces personnes de réussir si elles avaient limité davantage leur consommation de glucides, étaient plus patientes, ou les deux. Généralement, une personne qui se soumet à un régime attend des résultats relativement rapides en termes de perte de poids. Dans cette approche, la personne n'essaie pas de re-réguler son tissu adipeux. Elle se contente de réduire les calories qu'elle consomme, pensant qu'en retour, ses adipocytes vont libérer de bonne grâce les calories qu'ils stockaient. Et si la personne ne constate pas de résultats significatifs au bout d'un mois ou deux, elle décrète que le régime n'a pas marché et en essaie un autre ou se résigne à garder ses bourrelets. Alors que l'objectif réel d'un régime est de contrecarrer une perturbation de la régulation du métabolisme des graisses, perturbation susceptible d'avoir des années ou même des décennies d'ancienneté, et qu'inverser le processus peut exiger plus que seulement quelques mois ou même quelques années. La restriction glucidique est souvent assimilée à une alimentation riche en viande et en produits d'origine animale. La raison en est simple. Si vous vous nourrissez principalement ou exclusivement d'aliments d'origine végétale, la majeure partie des calories que vous absorbez provient par définition des glucides. Cela ne veut pas dire que vous ne puissiez pas garder ou retrouver la ligne si vous supprimez les sucres, la farine et les féculents et vous nourrissez exclusivement de légumes feuilles, de céréales complètes et de légumineuses. Mais un tel régime est impossible à suivre pour beaucoup, pour ne pas dire la plupart d'entre nous. Les légumes feuilles et les légumineuses présentent certes l'avantage de contenir des glucides lents à digérer, autrement dit, ils ont un index glycémique bas, mais si vous tirez la majeure partie de votre nourriture de ce type d'aliments, la quantité totale de glucides, c'est-à-dire la charge glycémique, de votre alimentation est néanmoins assez élevée. Cela peut suffire pour vous faire grossir ou vous empêcher de mincir. Et si vous essayez de réduire votre apport glucidique en réduisant les portions que vous mangez, vous souffrirez de la faim, avec toutes les conséquences que cela implique. Ceci étant dit, si vous êtes végétalien ou végétarien, comprendre les mécanismes de base de la prise de poids peut néanmoins vous servir. Vous pouvez en effet améliorer la qualité des glucides que vous consommez, même si vous n'en réduisez pas la quantité totale. À lui seul, ce changement profitera assurément à votre état de santé global, même s'il ne suffit pas à vous faire perdre du poids. Modération ou suppression totale, partie 2. Avec le temps, les médecins qui défendent la restriction glucidique optent généralement pour l'une des trois méthodes suivantes afin de renforcer à la fois l'impact et la viabilité un aspect tout aussi important, de cette façon de manger. Une première méthode consiste à fixer une quantité idéale de glucides pouvant ou devant être consommés. Par exemple, les 72 grammes quotidiens que prescrit Wolfgang Lutz, qui équivalent à environ 300 calories. Cette méthode vise à minimiser les effets secondaires pouvant parfois apparaître lorsque notre organisme passe d'un mode principalement brûleur de glucides à un mode brûleur de graisse, et se fonde sur le principe qu'il est plus facile de continuer à consommer une faible quantité de glucides adipogènes que de les éliminer totalement de l'alimentation. Selon cette logique, Lutz autorise la consommation de petites quantités de sucre et d'un dessert de temps en temps, de quelques miettes de pain pour paner certains aliments, d'un peu de lactose dans le lait et de faibles quantités de glucides dans les fruits et légumes. Cette méthode peut convenir à certains, mais elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Une seconde approche vise d'entrée de jeu un apport glucidique minimal. Elle se fonde sur la conception que les glucides alimentaires ne nous apportent rien et que les effets secondaires de courte durée qui peuvent accompagner le temps d'adaptation de notre organisme à un régime supprimant ces glucides à presque 100% ne présentent pas de réels problèmes. J'y reviendrai plus loin. La troisième option est un compromis mis au point par Robert Atkins il y a une quarantaine d'années. Elle se fonde sur un postulat paraissant évident, bien qu'il ne le soit pas suffisamment pour qu'aujourd'hui les experts de la santé s'y rallient, et qui est qu'une personne qui se met au régime ayant pour seul objectif de mincir autant que possible sans mettre sa santé en danger, elle doit, tant que ce but n'est pas atteint, mettre temporairement de côté toute envie d'ordre gustatif. Une fois son but atteint, une fois ses kilos superflus envolés, elle peut, si elle le souhaite, réintroduire dans son régime certains des aliments supprimés pendant la phase de perte de poids. Les régimes qui fonctionnent selon cette philosophie commencent pour la plupart par ce qu'Atkins appelle « phase de démarrage », c'est-à-dire une étape durant laquelle l'alimentation ne doit pratiquement pas contenir de glucides, moins de 20 grammes par jour dans le régime Atkins. Une telle phase a pour effet d'accélérer la perte de poids initiale et d'encourager la personne à poursuivre le régime. Durant cette phase de démarrage, tous les glucides doivent être supprimés à l'exception de quelques petites portions de légumes-feuilles chaque jour. Ensuite, une fois que l'organisme s'est mis à brûler activement ses réserves de graisse et que la personne perd du poids à un rythme satisfaisant, elle peut réintroduire progressivement des glucides dans son alimentation, mais en très petite quantité à la fois. Et lorsqu'elle cesse de mincir, ce qui indique que son organisme est intolérant aux glucides réintroduits, elle doit les supprimer de son alimentation. Vous pouvez suivre la même méthode une fois que vous avez atteint votre poids idéal. Il suffit de réintroduire dans votre régime les aliments riches en glucides que vous aimez le plus et d'observer la façon dont votre corps réagit. Si vous reprenez du poids, mettons en mangeant une pomme par jour, et si vous ne voulez pas reprendre de poids, supprimez cette pomme. Si vous ne reprenez pas de poids, cela indique que votre corps est en mesure de tolérer une pomme par jour. Vous pouvez alors faire la même expérience avec d'autres aliments riches en glucides. Par exemple, une orange par jour, ou un plat de pâtes, al dente, par semaine, ou un dessert de temps en temps. De la sorte, vous pouvez déterminer les glucides que votre organisme tolère et trouver le compromis qui vous convient entre la graisse que vous voulez perdre et les aliments dont vous ne voulez pas vous priver complètement. Cette méthode est judicieuse, mais elle exige la prise en compte d'un autre facteur. Pour certaines personnes, une consommation, même faible, de glucides équivaut à s'autoriser à fumer une cigarette de temps en temps pour un ancien fumeur, ou à boire un verre pour un ancien alcoolique. Si certains sont en mesure de gérer le caractère occasionnel de ces écarts, ils constituent pour d'autres une pente dangereusement glissante. Ainsi, un dessert que vous vous accordez à l'occasion d'un événement particulier peut-il se transformer en luxe hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire, puis quotidien, et un beau jour vous risquez de décider que la restriction glucidique ne permet pas de perdre du poids, alors que vous avez tout bonnement cessé de vous y conformer et, en conséquence, avez repris vos kilos perdus. Un des arguments communément avancés par les experts contre la restriction glucidique est que tous les régimes sont condamnés à l'échec car un jour ou l'autre, on arrête de les suivre. Alors à quoi bon ? La faille de cette argumentation, c'est qu'elle implique que tous les régimes fonctionnent de la même manière. On absorbe moins de calories que l'on en dépense et qu'ils échouent donc tous également de la même manière. Or, c'est faux. Un régime qui exige que nous nous privions de nourriture ne peut effectivement qu'échouer car, premièrement, notre corps s'adapte au déficit calorique en dépensant moins d'énergie, deuxièmement, nous avons faim en permanence et, troisièmement, conséquence des deux premiers points, nous glissons dans la déprime, l'irritabilité et la fatigue chronique. Et comme nul ne peut supporter indéfiniment une sensation de faim permanente, ni les effets secondaires que cela entraîne, nous finissons donc par recommencer à manger comme par le passé, ou devenons victimes de compulsions alimentaires. Lorsqu'au contraire nous limitons notre consommation de glucides adipogènes, nous n'avons pas besoin de réduire volontairement la quantité de ce que nous mangeons, c'est même déconseillé. Nous pouvons manger à volonté des protéines et des matières grasses, ce qui nous évite à la fois de souffrir de la faim et de manquer d'énergie. Il arrive même que l'on se sente plus dynamique qu'avant. Le plus difficile à gérer, ce sont en fait les fringales de glucides. Si la faim qui accompagne les tentatives de restriction calorique est un phénomène physiologique inévitable, ces envies impérieuses de manger des glucides relèvent quant à elles davantage de l'addiction. Elles sont la conséquence, partielle tout du moins, de l'insulinorésistance et des taux d'insuline chroniquement élevés qui en résultent, et sont donc en fin de compte causées par les glucides. Les sucres sont un cas à part. Comme je l'ai déjà évoqué, le sucre déclenche dans le cerveau une réponse addictive comparable à celle que provoquent la cocaïne, la nicotine ou l'héroïne. Ce qui suggère que les fringales de sucre bien connues de tous les becs sucrés pourraient s'expliquer par l'intensité de la sécrétion de dopamine dans le cerveau lors de la consommation de ce même sucre. Cela dit, que la dépendance relève de notre cerveau, de notre corps ou des deux, la notion selon laquelle le sucre et les autres glucides facilement assimilables sont addictifs implique en retour que l'on peut venir à bout de cette addiction en faisant des efforts et en ayant suffisamment de patience, ce qui n'est pas le cas pour la faim. En évitant les glucides, nous faisons baisser notre taux d'insuline, ce qui entraîne normalement à terme une réduction ou même la suppression des fringales. Cependant, le processus peut prendre plus de temps que vous ne le pensiez ou le souhaiteriez. En 1975, un pédiatre exerçant à l'université Duke, James Sidbury Jr., qui allait devenir cette même année directeur du National Institute of Child Health and Human Development, Institut national de la santé infantile et du développement humain, déclara être parvenu à faire mincir très efficacement des enfants obèses en leur faisant suivre un régime ne comportant que 15% de glucides. « Après 12 à 18 mois, écrivit-il, les fringales de sucré avaient disparu, et les enfants indiquaient fréquemment que cela se produisait au cours d'une période spécifique de 1 à 2 semaines. » Si au contraire vous continuez à manger des glucides adipogènes ou à vous autoriser quelques sucreries, voire même peut-être simplement l'usage d'édulcorants, vous risquez de ne jamais vous débarrasser de ces fringales, ni de ce que Stephen Finney appelle les pensées obsessionnelles axées sur la nourriture. Certaines données empiriques non validées scientifiquement vont dans ce sens, mais c'est actuellement tout ce sur quoi nous pouvons nous fonder. Tout ceci indique que, pour certains d'entre nous au moins, le succès à long terme passe vraisemblablement par un changement radical. Si vous faites des compromis et finissez par manger de nouveau des glucides en grande quantité, la seule chose sensée, si vous voulez toujours perdre du poids, est de faire une nouvelle tentative, de même que beaucoup de fumeurs essaient plusieurs fois d'arrêter la cigarette avant de finir par y parvenir. Il n'y a pas d'alternative valable si vous avez recommencé à manger des glucides adipogènes et repris du poids. Essayez de nouveau d'arrêter ou, au moins, réduisez-en la consommation à un niveau minimal. Ce qu'implique le fait de pouvoir manger à volonté. Lorsque l'on a grandi dans un certain système de croyances, il est difficile de l'abandonner entièrement au moment de s'ouvrir mentalement à un autre modèle de pensée. On nous a tant répété et nous avons cru si longtemps qu'une des conditions essentielles pour perdre du poids était de manger moins que nous n'en avions envie, et que pour se maintenir à un poids donné, il fallait aussi manger avec modération, qu'il est naturel de supposer que cela vaut également lorsque nous limitons notre consommation de glucides. Mais comme je l'ai déjà évoqué plus tôt, manger moins de tout ne signifie en fait rien d'autre que limiter en quantité, en même temps que les glucides, notre consommation de protéines et de lipides. Or, puisque contrairement aux glucides, ni les protéines ni les lipides ne font grossir, il n'y a aucune raison d'en restreindre l'apport de quelque façon que ce soit. Il est vrai qu'en limitant les glucides, on mange souvent moins qu'on ne le ferait sinon. Il est notamment fréquent que les personnes qui évitent les glucides adipogènes constatent qu'elles sont moins affamées qu'elles ne l'étaient auparavant et que, par exemple, elles n'ont plus besoin d'un encas en milieu de matinée. Les pensées obsessionnelles axées sur la nourriture disparaissent, de même que le besoin de les satisfaire. Cela vient tout simplement de ce que ces personnes brûlent leurs réserves de graisse, contrairement à ce qu'elles faisaient auparavant. Leurs adipocytes fonctionnent correctement comme des réserves d'énergie à court terme et non plus comme des coffres-forts dans lesquels les calories restent emprisonnées à long terme. Elles disposent désormais d'un fournisseur interne de carburant qui leur prodigue de l'énergie tout au long du jour et de la nuit, comme cela devrait toujours être le cas, et leur appétit s'adapte en conséquence. Lorsqu'on ne manque pas de carburant, on ne ressent aucun besoin de se réapprovisionner tout au long de la journée. Si vous perdez un kilo par semaine, cela correspond à un peu plus de 7000 calories issues de vos réserves de graisse corporelle, soit un peu plus de 1000 calories par jour que vous n'avez pas besoin d'absorber par le biais de la nourriture. La restriction glucidique a par ailleurs un autre effet. Elle augmente votre dépense d'énergie. Comme vous ne détournez plus de carburant vers votre tissu adipeux, où il ne pouvait pas être exploité, vous disposez de facto de davantage d'énergie à brûler. En évitant les glucides adipogènes, vous supprimez le vecteur qui déroutait des calories vers vos adipocytes. Votre corps devrait donc retrouver son équilibre entre l'énergie qu'il consomme, sensation d'appétit et de faim, et celle qu'il dépense, activité physique et taux métabolique. Ce processus peut prendre du temps, mais il se met normalement en place sans que vous n'ayez à vous en préoccuper. En essayant de réfréner volontairement votre appétit, vous risquez au contraire de susciter des réactions de compensation. Si votre corps a moins de carburant à sa disposition, soit il ne pourra pas augmenter sa dépense énergétique, soit il mettra en réserve de la graisse qu'il aurait pu brûler. Vous risquez ainsi de perdre du muscle et non de la graisse. Par ailleurs, le fait de vous restreindre peut déclencher des compulsions alimentaires. Les médecins qui prescrivent la restriction glucidique dans leur clinique disent que leurs patients obtiennent les meilleurs résultats lorsqu'on leur rappelle régulièrement ou qu'on leur conseille expressément de manger dès qu'ils ont faim et de ne s'arrêter que lorsqu'ils sont rassasiés ou même de planifier des encas toutes les 2 ou 3 heures et de manger quelque chose, qu'ils aient alors faim ou non. Le même argument vaut pour l'activité physique. Il y a d'excellentes raisons d'être physiquement actif ou active, mais, comme je l'ai déjà expliqué, elle ne compte pas la perte de poids. L'activité physique est en effet susceptible d'augmenter votre appétit ainsi que de réduire votre dépense énergétique en dehors des moments où vous vous y adonnez. Or, l'objectif est d'éviter justement ces deux réactions. J'insiste, essayer d'accélérer votre perte de poids en augmentant votre dépense énergétique risque non seulement d'être inefficace, mais même d'être franchement contre-productif. Si vous êtes en surpoids ou obèse, vous avez tendance à être sédentaire parce qu'une partie du carburant que vous pourriez brûler pour produire de l'énergie est dirigée vers votre tissu adipeux. C'est parce que vous manquez littéralement d'énergie pour vous entraîner que vous n'en ressentez pas le besoin. Une fois ce problème résolu, en évitant les glucides qui vous avaient fait grossir et entretenir votre surpoids, vous devriez disposer de l'énergie nécessaire pour être physiquement actif ou active et en conséquence ressentir l'envie de le faire. L'objectif est donc de supprimer la cause de votre adiposité excessive, les glucides adipogènes, et de laisser ensuite votre corps trouver son équilibre naturel entre dépenses et apports énergétiques. C'est pourquoi vous devriez manger quand vous avez faim, et ne vous arrêter que quand vous êtes rassasié. Tant que vous ne mangez pas d'aliments riches en glucides, cela ne risque pas de vous faire prendre du poids. Matière grasse ou protéines ? Un autre héritage des 50 dernières années de mauvais conseils nutritionnels est la croyance selon laquelle les matières grasses seraient de toute façon mauvaises pour la santé, même si l'on admet que ce sont les glucides qui nous font grossir. Cette position de compromis semble à première vue parfaitement raisonnable. C'est ce type d'approche qui, au début des années 1960, a amené les partisans de la restriction glucidique à présenter les régimes qu'ils recommandaient comme « riches en protéines » plutôt que « riches en matières grasses ». En effet, ces régimes prescrivaient non seulement d'éviter les glucides adipogènes, mais aussi d'éliminer le beurre et le fromage, de manger des blancs de poulet après en avoir enlevé la peau, du poisson maigre, les viandes les plus maigres, et uniquement le blanc des œufs, sans le jaune. Comme nous l'avons vu, cependant, si aucun argument convaincant ne permet de croire que les matières grasses ou les graisses saturées sont mauvaises pour la santé, il y a au contraire de bonnes raisons de mettre en doute les bienfaits des régimes trop riches en protéines. Comme je l'ai déjà mentionné, les populations de chasseurs-cueilleurs qui se nourrissaient essentiellement ou exclusivement de viande mangeaient autant de matières grasses que possible. Et il semble qu'une des raisons de ce comportement consiste en ce qu'une alimentation hyperprotéinée, c'est-à-dire comportant peu de matières grasses ou de glucides, est potentiellement toxique. La question a été abordée par des spécialistes du métabolisme des protéines dans un récent rapport de l'Institut de médecine des États-Unis intitulé « Dietary Reference Intakes », apport nutritionnel de référence. Citant les mêmes recherches menées sur les populations de chasseurs-cueilleurs que celles que j'ai évoquées au chapitre 17, les auteurs expliquent dans ce rapport que les données collectées sur les pratiques alimentaires de populations de chasseurs-cueilleurs tant présente qu'historique, indique que les êtres humains évitent de manger une proportion trop forte de protéines. Et ces spécialistes du métabolisme des protéines soulignent qu'une alimentation riche en protéines et pauvre en matières grasses et en glucides déclenche à court terme des symptômes tels que faiblesse, nausée et diarrhée. Symptômes qui disparaissent lorsque la proportion de protéines redescend au niveau modéré de 20 à 25% des calories et que celle des matières grasses augmente symétriquement pour compenser. Avant l'avènement du mouvement anti-matières grasses au cours des années 1960, les médecins et nutritionnistes qui testaient la restriction glucidique le faisaient en prescrivant la consommation de viande grasse et un rapport calorique matière grasse-protéines de 75-80% pour 20-25%. Cette proportion n'entraînait pas d'effets secondaires, était bien tolérée et se rapprochait davantage du régime des populations qui, telles les Inuits, se nourrissaient presque exclusivement, voire exclusivement, de produits d'origine animale. La question de savoir si un régime composé à 75% de matière grasse et 25% de protéines est plus sain qu'un autre dont le rapport serait de 65-35 reste entière. Mais une autre question tout aussi importante est de savoir quelle est la variante la plus confortable et agréable à suivre sur la durée. Si manger des blancs de poulet sans peau, de la viande et du poisson maigre et des omelettes au blanc d'œuf vous convient, allez-y. Mais gardez à l'esprit que manger le gras de la viande au même titre que le maigre, les jaunes d'œufs en même temps que les blancs et cuisiné au beurre, au sein doux ou à l'huile est peut-être non seulement le choix le plus viable, mais aussi le plus sain. Des effets secondaires et des médecins. Lorsque vous remplacez les glucides de votre alimentation par des matières grasses, vous modifiez radicalement le carburant que vos cellules brûlent pour obtenir de l'énergie. Elles passent alors d'un mode majoritairement brûleur de glucides, de glucose, à un mode brûleur de graisse, tant de la graisse corporelle que des matières grasses issues des aliments. Cette modification peut toutefois s'accompagner d'effets secondaires. Manque d'énergie, épuisement, nausée, déshydratation, diarrhée, constipation, hypotension orthostatique. Il s'agit d'une chute brutale de la pression artérielle lors du passage en position debout, se traduisant par une sensation de malaise ou même un évanouissement, aggravation d'une goutte éventuelle préexistante, etc. Dans les années 1970, les autorités de santé pointaient du doigt ces effets secondaires potentiels comme étant l'une des raisons pour lesquelles ces régimes ne pouvaient pas être suivis généralement sans danger, ce qui impliquait qu'il valait mieux ne pas les suivre du tout. Mais cette façon de voir les choses confond les effets à court terme de ce que l'on peut appeler un état de manque de glucides avec les bienfaits à long terme qu'entraîne le fait de surmonter cet état de manque et donc de vivre plus longtemps, plus mince et en meilleure santé. L'état de manque de glucides correspond, techniquement parlant, à la phase d'adaptation du corps à l'état de cétose qui résulte d'une consommation de glucides inférieure à environ 60 grammes par jour. C'est à cause de cette réaction corporelle que certaines personnes abandonnent la restriction glucidique peu après avoir commencé à l'expérimenter. L'état de manque de glucides est souvent interprété comme un besoin physiologique de glucides, explique Westman. C'est comme si on disait à un fumeur qui essaie d'arrêter que ses symptômes de manque proviennent d'un besoin physiologique de nicotine et qu'on lui conseillait de recommencer à fumer pour résoudre le problème. On est aujourd'hui en mesure d'expliquer la provenance de ces effets secondaires. Et les médecins qui prescrivent la restriction glucidique affirment qu'il est possible non seulement de les traiter, mais aussi de les prévenir. Ces symptômes n'ont rien à voir avec la haute teneur en matière grasse du régime que l'on suit. Il semble qu'ils soient plutôt la conséquence soit d'une consommation trop importante de protéines au détriment des matières grasses, soit d'un programme sportif trop intense ne laissant pas au corps le temps de s'adapter au régime, soit, dans la plupart des cas, des difficultés rencontrées par l'organisme pour compenser intégralement la restriction de glucides et la forte baisse du taux d'insuline qui s'ensuit. Comme je l'avais mentionné en passant, l'insuline transmet à nos reins le signal de réabsorber le sodium, ce qui en retour entraîne une rétention d'eau et augmente la tension artérielle. Lorsque notre taux d'insuline baisse, ce qui est une conséquence de la restriction glucidique, nos reins excrètent le sodium qu'ils gardaient en réserve et avec lui une certaine quantité d'eau. Chez la plupart des gens, c'est un phénomène bénéfique, qui explique la baisse de la tension artérielle allant de pair avec la restriction glucidique. Cette perte d'eau, qui peut représenter jusqu'à 2,5 kg à 3 kg ou plus chez un individu de 90 kg, constitue souvent une part importante des premiers kilos perdus au début d'un régime. Mais l'organisme de certaines personnes perçoit au contraire cette perte d'eau comme un mécanisme devant être enrayé. Il applique alors un ensemble de mesures compensatoires pouvant entraîner non seulement un phénomène de rétention d'eau, mais aussi ce que l'on appelle des déséquilibres électrolytiques. Les reins excrètent du potassium pour conserver du sodium, qui donne lieu aux effets secondaires que je viens de mentionner. Cette réaction peut être neutralisée, not fini, grâce à une absorption supplémentaire de sodium par le biais de l'alimentation. Il suffit pour cela d'ajouter chaque jour un gramme ou deux, entre une demi et une cuillère à café, de sel à ses aliments, ou de boire deux bols quotidiens de bouillon de poule ou de bœuf, méthode désormais recommandée par Westman, Vernon et d'autres médecins. La possible survenue de ces effets secondaires souligne l'importance d'être suivi par un médecin au fait des dernières connaissances scientifiques lorsque l'on prend la décision d'éviter les glucides adipogènes. Si vous souffrez par exemple de diabète ou d'hypertension, ce suivi médical est essentiel. Étant donné que le fait de limiter les glucides fait baisser à la fois la glycémie et la tension artérielle, si vous prenez des médicaments ayant la même action, l'association des deux peut s'avérer dangereuse. Or, un taux de sucre sanguin anormalement faible, que l'on appelle hypoglycémie, peut entraîner un malaise, une perte de conscience ou même la mort. Et l'hypotension peut quant à elle causer vertige, évanouissement et malaise. Ceci dit, il faut reconnaître que les médecins qui connaissent les raisons réelles pour lesquelles nous grossissons et qui savent ce qu'il faut faire pour y remédier ne sont pas particulièrement nombreux. Sinon, le présent livre audio n'aurait pas de raison d'être. Et ce qui est encore plus regrettable, c'est que les médecins qui comprennent les mécanismes de la régulation du poids hésitent eux-mêmes bien souvent à prescrire à leurs patients une restriction glucidique, et ce, y compris lorsque c'est précisément par ce moyen qu'ils se maintiennent eux-mêmes à un poids stable. Ce phénomène s'explique malheureusement par le fait qu'un médecin qui conseille à ses patients en surpoids de manger moins, de faire davantage d'exercices physiques et tout particulièrement d'avoir l'alimentation pauvre en matières grasses et riche en glucides recommandée par les autorités sanitaires, ne peut être poursuivi pour erreur médicale si l'un des patients en question subit un infarctus de semaines ou de mois après avoir commencé à suivre ses conseils. Tandis qu'un médecin qui, allant à l'encontre de la bien-pensance médicale, prescrit une restriction glucidique à ses patients, ne bénéficiera pas de la même garantie. Aujourd'hui, il existe sur le marché un nombre incalculable de livres de régime prônant la restriction glucidique, sans compter les livres de cuisine et les sites internet dédiés à l'alimentation faible en glucides, et même les applications pour smartphone destinées à conseiller les personnes intéressées. Mais il est vital que les médecins comprennent eux aussi ce dont traite le présent audiolivre, qu'ils s'intéressent aux notions que j'y ai présentées, et plus importante encore, aux données scientifiques qui ont été si souvent ignorées. Et cela vaut également pour les acteurs de la santé publique, aussi bien que pour les chercheurs qui travaillent sur l'obésité. Tant que ces leaders d'opinion adhéreront au modèle de l'équilibre entre les calories consommées et les calories dépensées, et tant qu'ils rabaisseront la restriction glucidique au niveau d'un simple régime ne bénéficiant que d'un engouement éphémère, c'est nous tous qui en pâtirons. Nous avons besoin de leur aide. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre à l'intention du corps médical autant que du grand public. Tant que la médecine et les autorités de santé publique n'auront pas compris en profondeur les raisons pour lesquelles nous grossissons, quiconque voudra garder ou retrouver la ligne et rester en bonne santé devra pour cela fournir des efforts inutiles.